Il est 14h. Vous êtes sur Radio Campus. Fréquence 106,6.
Chaque samedi, votre rendez-vous ciné sur Radio Campus Lille, c'est Cinéma m'était compté.
Bonjour à toutes et à tous. Merci une nouvelle fois d'être des nôtres pour profiter de cette 76e édition de Cinéma m'était compté. Et je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, on va se faire un très grand plaisir puisqu'on va évoquer, dans le cadre d'un premier épisode, l'année 1985. Christophe Dordain au micro, accompagné de Pierre Godon et de Christophe Colpart. Nous sommes ensemble pendant une heure. Oui, nous allons nous faire plaisir en évoquant cette belle année cinématographique dont on va essayer de vous faire découvrir toute la richesse. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait un 007, en l'occurrence, celui-ci.
A chance to die. But can we dance?
Certes, ce n'est peut-être pas le meilleur des 007. Certes, Roger Moore avait 58 ans à l'époque et ça sentait un petit peu la fin du cycle. Il aurait peut-être déjà dû arrêter avant. Mais que voulez-vous ? Nous aimons 007, on adore Roger Moore et nous aimons Dangereusement Vôtre, le James Bond de l'année 1985, qui est donc notre thème d'émission pour cette 76e édition de Cinéma m'était compté, pour laquelle j'ai grand plaisir à retrouver Christophe Colpart. Bonjour Christophe.
Bonjour Christophe, bonjour Pierre, bonjour à tous.
À tes côtés, Pierre Godon, qui est fin prêt pour cette année 85. Bonjour Pierre.
Bonjour Christophe, ravi de te revoir parmi nous, Christophe.
Merci.
Voilà. Et de se dire qu'effectivement, Pierre, ben oui, Dangereusement Vôtre. Alors, c'est vrai. Il y a des choses que l'on peut reprocher au film. Voilà. Roger Moore, sa performance dans l'agent 007, dans le rôle de l'agent 007, a été décrié à l'époque parce que justement, il était vieillissant. On sait tout cela. Mais quand même, Dangereusement Vôtre, je trouve que c'est très plaisant à regarder 40 ans plus tard.
Oui, c'est très plaisant à regarder. Après, on va dire que notre œil de cinéphile est un peu plus affûté avec l'âge, etc. Moi, quand j'ai vu la première fois, c'était pas à la sortie, c'était un peu plus tard. J'avais passé un bon moment. Puis la séquence d'intro, la Tour Eiffel, ça le fait aussi, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs de séquences en France dans les bons, contrairement à Mission Impossible. Bref, petit message au passage.
C'est vrai.
Mais oui, je suis... Avec le recul, ouais, là, on se dit, bon... C'était un bon moment, c'est pas le meilleur. Et c'est vrai que tu te poses la question, est-ce qu'il aurait pas dû lâcher avant, après Octopussy, mais bon. Ça fait plaisir à regarder, c'est plaisant. Il est dans son rôle, comme la manière dont il a appréhendé et interprété pendant tous les films qu'il a fait. Donc oui, c'est un bon moment que je recommande aussi également.
Bah, on sait très bien à propos de cette période des années 80 et des aventures bondiennes, on sait que Roger Moore ne souhaitait pas tourner Dangereusement Vôtre parce que lui-même avait conscience du fait qu'une limite avait été atteinte. Bon, il y avait un problème quant à trouver un remplaçant et c'était pas encore vraiment Pierce Brosnan, mais il y avait plusieurs pistes qui se dégageaient. Ce sera pour un petit peu plus tard. Il faudra donc beaucoup de temps d'ailleurs pour Pierce Brosnan. Bref, c'est toujours pareil. Quand il est question de la succession bondienne, on se dit toujours qui pour être le successeur, qui pour être le prochain 007 à l'écran. D'ailleurs, la question est éminemment posée aujourd'hui.
Oui, et puis entre les fuites qu'il y a sur Internet, les fameuses fuites qui ne veulent rien dire. Oui, c'est un tel qui est dans les papiers à l'époque des brocolis, et maintenant c'est plus les brocolis, il faut le rappeler, hein. C'est quand même Amazon qui a racheté le concept. Donc on verra ce que ça va donner, mais ça avait toujours été un problème important.
Bref, si vous avez envie de vous faire plaisir... Un bon James Bond avec Roger Moore, labellisé années 80. La musique de Duran Duran que vous avez entendue est tout à fait... Elle reflète bien l'ambiance. Puis il y a Patrick McNee, il y a Grace Jones, il y a un Dolph Lundgren à ses tout débuts.
Christopher Walken.
Voilà, comme tu le... Christopher Walken dans le rôle de Zorin. Voilà, c'est pas le meilleur des Bonds, mais c'est un bon Bond. C'est un plaisir coupable, comme on l'aime beaucoup autour de cette table. Alors, chers amis, l'année 85 arrive et cette année 85 est marquée par un affrontement. On a organisé un match. Voilà, alors on a pris l'équipe Amblin d'un côté, donc le studio créé par Steven Spielberg. Et de l'autre côté, on a pris l'équipe à John Hughes, parce que cette année 85, d'un côté, vous aviez les Goonies réalisés par Richard Donner, et de l'autre côté, vous aviez Breakfast Club, très grand film, les Goonies aussi, hein, mais Breakfast Club, c'est, pour moi, c'est encore un étage au-dessus qu'a réalisé John Hughes. Et voilà, ce sont deux films qu'on a voulu associer, Pierre et Christophe, dans cette première étape. Alors... Bon, les Goonies, là...
Les Goonies, je pense que pour les Goonies, on pourrait appliquer le slogan, je pense, qui avait été appliqué pour le Temple Maudit. Si l'aventure avait un nom, ce serait ça. On pourrait le mettre aussi.
Exactement.
Moi, j'ai eu la chance de découvrir en salle à l'époque, à Lille. Je crois que c'était à l'Ariel, ou au Pâté. Donc, avec un film pour lequel il y avait une bonne campagne marketing, puisque les émissions... pour ados, comme Récréa 2, Rock Vacances, etc., avait fait des extraits, diffusion d'extraits, enfin, notamment le fameux toboggan aquatique dans la caverne, etc., ça donnait envie. Et au départ, et puis on était un peu confus, c'est-à-dire que Steven Spielberg présente, à notre époque, moi quand j'avais 10-11 ans, c'est le nouveau Spielberg, Kenny, parce qu'il avait déjà fait le con 84 avec Gremlins. Voilà, en fait, ce qu'il voulait pas le temps de réaliser, il le donnait aux autres. Voilà, c'était très bien, et il a commencé à cartonner comme ça avec Amblin. Que dire des Goonies ? Qu'à part que c'est un club des cinq des années 80, avec des méchants qui ont vraiment, excusez-moi les termes, des gueules de méchants, hein, c'est pas des pieds moitié nickelés, un peu dans leur comportement, mais ils ont vraiment les sales tronches.
Il paraît que Christophe a joué dans le film.
C'est vrai. Bah, le bouffi-bouffon, moi je faisais aussi le bouffi-bouffon.
Et toi, tu vas avoir des problèmes.
Mais oui, réalisé par un grand Richard Donner. Que à l'époque, ben, Richard Donner, je connaissais un peu, je m'intéressais un peu au cinéma par Superman, et prochain réalisateur de L'Arme Fatale, donc quelqu'un qui est de multiples talents, Richard Donner, qui est un vrai réalisateur. Un casting qui, je pense, est aux petits oignons. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres personnes qui avaient été recrutées à l'époque, mais je vois pas d'autres, à part le gamin qui jouait dans E.T., Henri Thomas, qui aurait peut-être qui était un enfant star, mais il n'y en avait pas d'autres à l'époque. Et un scénario qui se tient très très bien.
Ça se regarde encore aujourd'hui avec bonheur.
Et puis, on se rend compte de la qualité du film, parce que le film, vous montrez les gamins maintenant, ça marche toujours, et ça
c'est
a 40
ça,
ans.
C'est
et ça, c'est un tampon de qualité que tu ne peux pas enlever.
Christophe ?
Alors, il me paraît qu'il va avoir une série télé Les Goonies bientôt, avec il se pourrait qu'on ait le casting complet dans le rôle des parents du film.
D'accord.
Donc Josh Brolin, tout le monde serait là, et qui passerait la succession à leurs enfants.
Pour, d'accord. Parce que
voilà. Et ça serait peut-être une série qui serait produite non par Amazon.
Oh, tiens.
Amazon ou Max, on ne sait pas encore.
C'est Warner, ouais. Donc
voilà, c'est pas encore tout à fait décidé, mais ça, il y a pas mal d'infos qui commencent à fuiter aux alentours.
Alors, c'est peut-être pas plus mal parce que ça fait dans les cartons depuis une bonne décennie. Un Goonies 2, un Goonies 2, et oui, c'était oui. Voilà. Ils avaient dit en salle. En salle, je suis pas sûr que ça rencontre le public actuellement, même si c'est un film culte. Puis 40 ans après ou 45 ans après, la série, je pense que ça peut être pas mal. Enfin, un bon compromis.
À voir prochainement. On suivra ça, bien sûr, avec
bien sûr.
Intérêt. Ce sera pour le magazine des séries, tiens, d'ailleurs, en l'occurrence. Alors, Christophe, nous avons donc associé la team Amblin à l'équipe de John Hughes. Et là, il est question de Breakfast Club. Ouais. Bon, qui, c'est vrai, pour moi, est un film emblématique des années 80. On peut même dire que c'est un film culte, dont la production n'a pas toujours été facile, parce qu'il y a une superbe distribution artistique. Mm-hmm. Et notamment, comment dirais-je, il y en a un qui s'est un petit peu fait remarquer par son comportement sur le plateau de tournage.
Oui, c'est Jude Nelson, qui est un petit peu un électron libre, qui s'est un peu trop mis dans la peau de son personnage, qui n'était pas facile à gérer. Mm. Il a dû être recadré par les cinq autres acteurs du casting, parce qu'il a frôlé deux fois le renvoi. Mmh. C'est, oui, comme tu dis, pour moi, c'est presque la némésis du teen movie des années 80, Breakfast Club. La quasi-totalité des acteurs au casting fera un ou plusieurs, pour la plupart, ils feront tous plusieurs films avec John Hughes, que ce soit réalisateur ou producteur. Mmh. Molly Ringwald, c'est celle qui en fera le plus avec. John Hughes écrit le scénario en deux jours en 1982.
C'est ça qui est incroyable.
Voilà. La production du film commence en mars 84 avec un tout petit budget $1 million à peine. Mmh. John Hughes n'est absolument pas connu à Hollywood puisque son premier film 16 bougies pour Sam avec Anthony Michael Hall et Molly Ringwald ne sort que deux mois plus tard. Donc il est vraiment quasi inconnu à Hollywood et pourtant on lui fait énormément confiance. La ville de Shermer, c'est une ville fictive, mais ça ressemble beaucoup à Northbrook, là où a grandi John Hughes. Pendant un temps, il a été question que le concierge Carl soit joué par Rick Moranis, mais il a refusé le rôle parce qu'il trouvait le rôle pas assez à son avantage.
C'est vrai que ça peut se comprendre. Si dans le film, je trouve que le personnage du pion, du surveillant, il est parfait. Hein.
Non, le concierge. Carl.
Pardon. Pourtant, il n'est pas très à son avantage dans Ghostbusters non plus. Hein.
Non, mais c'était pas vraiment le même genre de rôle. Quoi. C'était...
Ouais, mais Ghostbusters, bah, c'est le maître des clés.
C'est ça.
Exactement.
Voilà. Alors, musicalement, on a associé donc à travers ce match fictif entre la team Amblin et la team John Hughes. D'un côté, vous allez retrouver Dave Grusin à la partition pour la séquence d'ouverture des Goonies. Vous allez voir, si je vous dis qu'il y a une poursuite en voiture, écoutez bien, vous allez dire, bah oui, c'est musicalement ce qu'il fallait. Et puis après, derrière, vous avez le titre emblématique du Breakfast Club, ce qui permettra d'entendre Simple Minds, quand on vous disait que c'était une belle année, l'année 85.
Thank you. Écoutez le cinéma sur Radio Campus Lille.
À l'époque, un extraordinaire carton sur la bande FM, extrait de la bande originale du film Breakfast Club. C'était le groupe Simple Minds que vous avez vraisemblablement reconnu. Alors, poursuivons notre évocation de cette année 1985 et il est temps de sortir les coups de poing dans la gueule parce que, bien évidemment, il est question de Chuck Norris. Et voici, avec Chuck Norris, l'année de la savate. Voilà, parce que lui, pour ce qui est du coup de pied circulaire arrière en pleine tronche, il s'y connaissait. Et il s'avère qu'en 85, Chuck Norris a connu deux beaux succès en salle, dont un notamment, deux beaux succès parce que Portée disparue, peut-être un petit peu plus modeste. Après. Voilà. Mais il y a Invasion USA, ça, bon, faut se le farcir quand même. Et puis après, il y a Sale temps pour un flic, bon, qui est une espèce de sous-inspecteur Harry, d'ailleurs, quelque part dans l'histoire, il y a un petit peu de ça qui traîne. Alors, commençons tout d'abord par Invasion USA, réalisé, alors je crois que le metteur en scène s'appelle Joseph Zito, si je me souviens bien, qui d'ailleurs avait aussi travaillé avec Chuck Norris pour Portée disparue. Bon, alors Invasion USA, c'est le prototype du film républicain américain, années 80, anti-terroriste, anti-tout ce qu'on peut éliminer à ce moment-là sur la planète. C'est bourrin au possible, bourrin à l'extrême, c'est remarquable.
C'est normal, c'est une production Canon.
Voilà.
Déjà, bah oui, c'est un film de guérilla urbaine et d'invasion, un peu dans le style de L'Aube rouge de John Milius. Le film coûte 12 millions à la Canon, il en rapporte 17.
À l'époque, c'était beau.
Voilà. La Canon, le duo Golan Globus sont contents. Hein. Mm-hmm. Le casting, c'est un casting de vraie gueule de cinéma. Il y a entre autres Richard Lynch dans le rôle du grand méchant, c'est les Barbarians, c'est Panix.
C'est aussi quelqu'un, si vous regardez bien l'univers des séries télévisées, il est dedans.
Sûr, on le retrouve. Je savais que tu allais en parler.
Des dizaines et des dizaines d'épisodes.
Il y a Billy Drago, qui est le Frank Nitti de Palma dans Les Incorruptibles. Il y a aussi Robert Bob Wall, Opération Dragon, le jeu de la mort. Voilà, le grand Bob Wall. Le film est considéré comme un sombre nanar, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est un film bourré de testostérone, autant dans ses scènes d'action que dans ses dialogues. Il y a vraiment des dialogues exceptionnels, mais qui ne sont pas diffusables à la radio.
Oui. C'est politiquement incorrect au possible.
Voilà. Mais c'est la musique, c'est drôle, d'ailleurs. Elle est signée Jay Chataway, qui est un habitué de la... qui est un habitué de l'écurie Canon. Et Bernard Tiffen double Chuck Norris comme très souvent.
Alors ça, c'est donc l'acte 1, parce que c'est vrai qu'il y a eu un second Portée disparue qui était sorti aussi la même année. Bon, j'avoue que sur Portée disparue, le problème, c'est que ça souffrait de la comparaison avec Rambo 2. Et on en parlera dans une prochaine émission, avec Rambo 2. On vous rassure tout de suite, l'année 85 connaîtra un deuxième épisode à la rentrée. Alors, ça, c'est donc pas trop mal. C'est à regarder avec beaucoup de distance. Le sale temps pour un flic, c'est autre chose.
C'est autre chose.
Parce qu'il y a un metteur en scène derrière, Christophe, qui est quand même d'un autre calibre que Joseph Zito.
Oui, non, mais on est d'accord. Non. Bon, déjà, Sale temps pour un flic, ça a été écrit en 79. Ça devait être le scénario du quatrième inspecteur Harry. Ça reste dans les tiroirs, ça végète, c'est repris par un producteur canadien à l'été 80. En mai 83, Orion planifie la sortie de Sale temps pour un flic. Normalement, c'était Kris Kristofferson qui devait jouer le rôle d'Eddie Cusack. L'acteur préfère se tourner vers Flashpoint avec Treat Williams en 84. Pendant longtemps, il y a eu beaucoup de noms pour faire le rôle d'Eddie Cusack.
Comme à chaque fois.
Charles Bronson, Mel Gibson, Tommy Lee Jones, Gene Hackman, Nick Nolte, Kurt Russell. Et tout compte fait, en août 84, il est finalement annoncé que ça sera Chuck Norris le héros, mais qu'on déménage l'histoire de Sale temps pour un flic de New York à Chicago. Justement à Chicago, puisque Dennis Farina joue l'inspecteur Dorato, il était réellement policier à Chicago jusqu'en 85, et ça n'est que son deuxième film après l'exceptionnel Le Solitaire de 81 de Michael Mann.
On s'incline.
Henry Silva joue le grand méchant du film, et il a quasiment le même rôle que dans Nico, du même réalisateur qui est Andrew Davis, réalisateur du futur fugitif.
Et c'est pour ça que ce sont les deux films que je mets toujours en parallèle comme étant les actes de naissance des carrières de Chuck Norris et de Steven Seagal, de par leur importance. Nico est un film qui est complètement à reconsidérer, comme Sale temps pour un flic. Ce sont de vrais bons polars très efficaces.
De toute façon, Sale temps pour un flic est considéré comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur film de Chuck Norris par la critique et par le public. En France, il se positionne à la troisième place du box-office derrière La Forêt d'Émeraude et Police Academy 2 au boulot.
Quand même, parce qu'il fallait passer derrière John Borman.
Ah, c'est clair. La musique est signée David Michael Frank, qui a fait la musique de Best of the Best 2, dans les griffes du Dragon Rouge avec Dolph Lundgren et Brandon Lee, et aussi Nico avec Steven Seagal. Mais pour une fois, ça n'est pas Bernard Tiffen qui double Chuck Norris, c'est Yves Régnier, notre commissaire Moulin.
Ça vaut le coup aussi. Bon.
Voilà, donc si avec ça on ne vous a pas donné envie de vous replonger une quarantaine d'années en arrière pour vous farcir Chuck Norris, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Oui, Pierre.
Est-ce que, à tout hasard, ce film serait dispo sur telle ou telle plateforme
Oui, ça doit être dispo. Ça doit être dispo sur Amazon pour Sale Temps pour un flic. Et c'est sorti. Les deux sont sortis en DVD. Sale Temps pour un flic est sorti chez Sidonis Calista.
Ouais.
Et Invasion USA est sorti chez ESC.
D'accord. Merci beaucoup.
Et tout de suite, d'écouter la partition musicale du film que Donald Trump doit beaucoup apprécier. Invasion USA, musique signée Jay Chataway, comme ça, on l'a faite, celle-là.
La musique fait son cinéma.
Chaque samedi
sur 106.6.
une solide partition musicale composée par David Michael Frank, extrait de la bande originale du film « Saltan pour un flic » réalisé donc par Andrew Davis avec Chuck Norris. Film qui était sorti il y a 40 ans sur les écrans et qu'on vous recommande chaleureusement. Vous passerez une bonne soirée si vous aimez le polar urbain. Voilà, c'est une belle petite pépite du genre. Place maintenant au cinéma français des années 80. Alors, bien évidemment, il est d'une richesse assez conséquente, il faut bien le dire. Voilà, il y a un aspect florissant avec des genres très différents, parce que c'est vrai aussi que cette année 85, et c'est un petit peu ce qu'on essaie aussi de vous démontrer autant que possible, c'est l'année de tous les genres du cinéma. Et ici, pour le cinéma français, on va prendre deux illustrations dans deux registres très différents. D'un côté, le film d'aventure, quasiment une espèce de western à la française avec Hors-la-Loi réalisé par Romain Davis, et de l'autre, ce qu'on pourrait appeler un drame social avec Saint-Ouen Illois réalisé par Agnès Varda qui a propulsé Sandrine Bonheur au zénith des grandes comédiennes françaises. Alors de commencer tout d'abord, Christophe, par le film de Romain Davis, Hors-la-Loi, donc qui sort en 85 sur les écrans. Là aussi, il a fallu un énorme travail pour que la distribution artistique puisse s'affiner et d'ailleurs de permettre à certains d'entre eux de connaître une brillante carrière, notamment un en particulier.
Oui. Exactement. Oui, un film assez intense sur tous les points, une production difficile parce que Françoise Dolto a voulu empêcher le film de se faire, parce que c'est vrai que le scénario est un scénario assez dur, assez c'est un film assez intense, même un peu violent.
C'est une histoire de bande de jeunes à la dérive. Hein.
Oui, oui, ouais. Un peu de jeunes délinquants, oui. Il y a eu plus de 2000 enfants castés par Dominique Besnéard. Il en reste une centaine. Sur la centaine, il faudra en sélectionner 10 ou 12. L'équipe d'acteurs, d'enfants acteurs devient un véritable clan qui est assez soudé, qui s'entraide en dehors des prises, tout ça. Certains auront des belles carrières, je pense entre autres à Clovis Cornillac, surtout. Il y a aussi Isabelle Pascot, Roselyne et les Lions. Il y a Vadek Stanzak. Après, d'autres n'auront... Ça sera leur seul et unique film, et c'est même pour certains dommage. Mmh. Je pense au jeune Ludovic Lubrizzi, qui a presque une tête de James Cagney enfant, qui est très très bon dedans. Voilà. Il y a un solide casting d'acteurs tels Madeleine Robinson, Jean-Paul Roussillon. C'est assez. Après, voilà, 8 semaines de tournage assez intense où il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des cascades, tout ça. Il a fallu leur apprendre à monter à cheval. Et il y a entre autres dans un petit rôle dans le film Mario Luracci. Mmh. Le budget est complètement bouffé. Donc c'est ça le problème.
Et là, quelqu'un intervient.
Il y a Jean-Paul Belmondo qui posera de l'argent sur la table parce qu'il a vu les rushs par Robin Davis et il veut absolument que le film se termine.
Bravo, monsieur Belmondo.
Ouais, à souligner. Voilà. Alors, concernant Robin Davis, Christophe, d'ailleurs, il l'a reconnu très facilement. Il y a une influence majeure qu'il a eu l'occasion de reprendre en tant que grand cinéphile, parce que c'est une œuvre de référence qui nous ramène justement au milieu des années 50. 55.
Oui, voilà. Robin Davis reconnaît avoir été fortement influencé autant pour l'histoire que pour le montage de plusieurs films des années 50, tels À l'Est d'Éden avec James Dean, parce que pour lui, James Dean, c'est presque l'archétype d'un des personnages de la bande de jeunes ados, mais aussi de La Rivière sans retour avec Robert Mitchum et Marilyn Monroe, mais aussi de Graines de violence, le film avec Sidney Poitier et Glenn Ford.
Réalisé par Richard Brooks, c'est une grande œuvre. Donc là, petite partition musicale aussi, il faut le souligner, hein, Christophe.
Oui, signé Philippe Sard. Et d'ailleurs, Philippe Sard revendra des objets personnels afin de pouvoir financer la BO, puisqu'il n'y a plus de budget. Il a vendu des projecteurs, il a vendu des consoles de mixage, tout ça, pour pouvoir faire la BO, puisque à un moment, Robin Davis lui dit « J'aimerais bien un morceau au banjo, comme dans Deliverance. » Et Philippe Sard lui dit « Non, on ne va pas faire comme dans Deliverance, tu vas avoir le mec de Deliverance. » Il a été chercher le joueur de banjo de Deliverance de Borman pour faire le morceau de banjo dans la BO.
D'accord.
C'est un film hors la loi. Je vais me permettre un parallèle qui peut vous sembler un petit peu étonnant, mais qui peut-être ne le sera pas tant que ça, puisque c'est un film qui est sorti en 65, ça s'appelle Les Grandes Gueules de Robert Ricco avec Ventura. Et il y a cette petite idée-là qui craignent de ces gens qui sont à la marge, parce que sont des voyous ou des criminels, et qu'on met, qu'on oblige à travailler donc, en forêt. Ben, hors la loi, il y a un petit peu de ça aussi, quelque part. Voilà.
C'est vrai.
Parallèle que je me... Certains le trouveront peut-être un peu audacieux.
Non, tu as raison.
En toute liberté. Alors, sans toi ni loi, 1985, Agnès Varda, grand film, Sandrine Bonner. Alors là aussi, le but, cette fois, drame social, véracité. On veut vraiment coller dans le dur d'une réalité, parce que c'est aussi un film qui est destiné aux hommes politiques.
Exactement. La structure et le montage du film se situent entre le documentaire et l'émission d'enquête telle qu'on la connaît de nos jours. La voix off de la soi-disant journaliste, c'est Agnès Varda elle-même. Dans un souci de véracité, Agnès Varda a longuement parlé et suivi le parcours d'une SDF qui fait un petit rôle dans le film, qui joue sous le pseudonyme de Sétina Arabe. Elle a d'ailleurs fait, je pense, Mardi Cinéma avec Agnès Varda au moment de la sortie du film. La réalisatrice Agnès Varda engage Sandrine Bonner, qui est âgée de 17 ans au moment du film, après avoir vu À nos amours de Maurice Pialat, parce qu'elle la trouve très juste et avec un physique assez dur, assez fort, marqué. Une grande partie du casting est composée d'acteurs non professionnels, mais il y a quand même quelques acteurs professionnels qui viennent de différents horizons, tels Stéphane Fraisse, Macha Merrill, il y a la toute jeune Yolande Moreau, bien avant Les Deschiens. Agnès Varda fait faire des flyers avec des phrases assez choc sur une image du film avec Sandrine Bonner, et les fait distribuer avant la sortie du film avec des phrases choc afin d'éveiller les consciences du gouvernement et aussi du public, parce qu'à l'époque, les structures d'accueil pour les SDF, il n'y en avait quasiment pas. Mmh. Et les Restos du Cœur viennent tout juste d'être créés en septembre par Coluche. Le film sort, je pense, en novembre ou décembre. Donc voilà, et le film est dédié à Nathalie Sarraute, qui a été l'une des créatrices du style nouveau roman, dont la réalisatrice est inspirée pour la neutralité de ton.
Et musicalement, de commencer avec Philippe Sard pour Hors la loi et de glisser avec Les Doors pour Sans toi ni loi. Il y a pire pour évoquer cette belle année 85.
Chaque samedi sur 106.6, c'est musique et cinéma. We'll be right back.
vous aurez certainement reconnu les Doors, un des nombreux extraits d'une partition musicale donc assez riche pour le film d'Agnès Varda, Sans poids ni loi, qui était sorti en 1985 sur les écrans. Et à ce sujet, Christophe, tu souhaitais rajouter une petite précision avant de glisser vers l'autre rubrique.
Oui, ben, pourquoi un morceau des Doors dans le film d'Agnès Varda? Ben, tout simplement parce que Jim Morrison, quand il habitait en France à Paris, il côtoyait Agnès Varda et Jacques Demy. Ils étaient très liés.
D'accord. Ceci explique cela. Alors, nous arrivons dans la dernière ligne droite de cette première évocation de l'année 85. Pierre, et là, bah, là, que voulez-vous? Là, on sort vraiment le sommet de l'un des sommets.
L'un des sommets.
J'aime beaucoup Lady Hawk, la femme de la nuit, dont on parlera dans quelques instants. Mais bien sûr, au préalable, Retour vers le futur, Robert Zemeckis, l'acte de naissance d'une trilogie qui a marqué toute une génération.
Exactement, acte de naissance d'une trilogie, comme tu dis, qui était dans... Alors, on revient sur une production Steven Spielberg, et puis Bob Gale, le producteur. Projet qui a mis un peu de temps. Robert Zemeckis était déjà connu depuis quelques années. Projet qui a mis un peu de temps à se concrétiser. Et surtout, on se rend compte quand on a eu les infos lors de, c'était lors du making-of du DVD qui était sorti, des erreurs de casting qui ont eu lieu et qui ont failli coûter très cher au film, puisqu'en effet, à la place de Michael J. Fox, au départ, était engagé l'acteur Eric Stoltz. Alors, Eric Stoltz, le film Le Masque de Peter Bogdanovich, et après, avant Retour vers le futur, je suis pas sûr qu'on.
Non, en France.
Et Pierre, tu as raison de le souligner parce que j'estime que le film Masque de Peter Bogdanovich a, comment dirais-je, rendu justice à Eric Stoltz, qui n'était peut-être pas le bon acteur pour Retour vers le futur, mais qui n'en demeure pas moins un acteur très solide. Le Masque le prouve.
Bien sûr. Et casting, je crois qu'il y a presque 3 semaines, 1 mois de tournage, je crois. Et là, ils se rendent compte lors des rushs que ça va pas, qu'il n'a pas un visage qui prête à sourire, parce que Retour vers le futur reste un film d'aventure fantastique et une comédie familiale, et que ça passe pas. Donc là, grand chambardement. Ils vont chercher Michael J. Fox, qui est la vedette d'une sitcom américaine, qui s'appelle, je crois, All in the Family, je crois, un truc
c'est
comme ça.
C'est ça, exactement.
Qui tourne donc la journée... l'autre sitcom, et le soir, qui était escorté par une limousine pour aller au studio, et tourner la nuit Retour vers le futur. Et là, bingo, parce que Michael J. Fox, son premier grand rôle au cinéma. Avant, c'était juste avant, il y a eu Teen Wolf, je crois.
Il y a eu Teen Wolf, en fait, a été tourné avant, mais il sort après Retour vers le futur.
Bien sûr, pour profiter du succès, voilà. Bien évidemment. Que dire de l'histoire? Tout le monde le connaît, film fantastique, humoristique, l'éternel sujet du voyage dans le temps, où là, le héros doit rabibocher ses parents, ou sinon il n'existe plus. C'est quand même assez original. Une ambiance musicale d'enfer, une BO... très bien, un casting, Léa Thompson, Christopher Lloyd, et j'ai un trou, le père...
Crispin Glover.
Crispin Glover, voilà, qui ne fera plus grand-chose après. Il fait du théâtre.
Il fera Willard, le premier drôle de dame de Max.
Au Pays des Merveilles.
Oui, exactement.
De Tim Burton. Et
n'oubliez pas Biff Tannen.
Oui, Biff Tannen, oui, bien sûr. Biff Tannen, ouais, c'est sûr. Biff Tannen.
Il connaîtra un sort tragique au hasard d'une rencontre avec un chariot plein de crottins.
Exactement, exactement. Une reconstitution exceptionnelle. Et puis, le premier film, qui, quand on le voit la première fois, on se dit, tiens, à la fin, il y a possibilité d'une suite. Alors, je ne suis pas sûr que c'était peut-être prévu au départ en l'écriture, pas certain, mais vu le succès, ça a bien embrayé et ça nous a mis un peu plus de plaisir 4-5 ans plus tard.
Et d'embrayer avec Lady Hawk, la femme de la nuit, d'un Richard Donner qui aura connu pour l'année 85 deux belles consécrations, ceci dit en passant.
Lady Hawk et les Goonies. Au départ, ça devait être Sean Connery et Dustin Hoffman qui étaient pressentis pour les rôles de Navarre et de Philippe Gaston, mais ils ne seront plus disponibles au moment du tournage en raison que le projet a pris du retard, ils doivent être remplacés. Matthew Broderick reprend le rôle de Philippe Gaston et Kurt Russell est engagé pour le rôle de Navarre, mais il y renonce pendant les répétitions et il est remplacé par Rutger Hauer. Le film a été tourné en Italie, dans la région des Abruzzes. La musique, Andrew Powell, c'est le compositeur et arrangeur attitré de Alan Parsons and Project, qui était le souhait de Richard Donner lui-même, puisque pendant les repérages, il écoutait quasiment que des albums d'Alan Parsons and Project, et il trouvait que ça suivait très bien, et que ça convenait aux images qu'il avait en tête, donc il a voulu absolument avoir Andrew Powell pour la BO.
Et aussi de préciser que, en ce qui concerne les acteurs, Rutger Hauer, quand vous avez ça, et puis en face, vous avez... Mon Dieu, oh là là, ah, qu'est-ce qu'elle nous a fait rêver à ce moment-là. On attendait avec impatience ce moment, bref instant, où il pouvait s'entreapercevoir et briser la malédiction. Ça, c'est quand même quelque chose... C'est ce qui fait aussi pour beaucoup du charme de ce film 40 ans après.
Comme pour Willow la semaine dernière, pour moi, Lady Hawk, ça fait partie des films à regarder pendant les fêtes de fin d'année.
Effectivement.
Et Princess Bride aussi. Hein.
Oui,
exactement.
Oui. Ah oui, très bien ça aussi, de se le rappeler. Mmh. Comme quoi les années 80 ont été riches. Et de commencer tout de suite avec un monument du genre de l'année 85. Voici Retour vers le futur, musique signée Alan Silvestri. We'll be right back.
John,
Vladimir,
Ennio,
Georges,
Hans,
François
et les autres, les plus grands compositeurs,
sont dans Cinéma m'était compté.
Musique composée par Andrew Powell, extrait de la bande originale du film Lady Hawk, La Femme de la Nuit. On vous le recommande chaleureusement. Et de terminer, Pierre et Christophe, avec Madonna, acte de naissance aussi d'une star de la pop culture des années 80, avec Recherche Suzanne désespérément. En une phrase, en un mot, car nous arrivons au terme de l'émission, Christophe.
Tout petit budget, 4 millions de dollars. Il en rapporte 27,5 millions à Orion. C'est le plus gros succès de Suzanne Sydelman. Elle fera une vingtaine de films après, mais elle ne connaîtra jamais un aussi gros succès qu'avec Recherche Suzanne désespérément, qui est le premier film de Madonna à l'écran.
Et de préciser aussi qu'il y avait également Rosanna Arquette.
Pierre. Et Dan Quinn, est doublé par Éric Legrand, qui vient de nous quitter.
Pierre, un grand merci, à bientôt.
Merci à vous, c'est déjà fini, c'est dommage. Hein.
Ça passe trop vite.
Merci voilà. Christophe, de rien.
Et on vous laisse avec Madonna. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Au revoir. And you can dance. For inspiration. Come on.